Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. Le scandale des Facebook Papers, extrêmement documenté grâce aux fuites organisées par l'ingénieur Francis Hogan, permet de revenir sur les effets néfastes non seulement de Facebook, mais des réseaux sociaux en général sur le cours du monde depuis 10 ans au moins. L'espoir que certains ont pu mettre sur l'activisme des blogueurs tunisiens ou syriens lors des printemps arabes en 2011 s'est terni depuis. Et on commence tout juste à mesurer les effets des algorithmes dans le déclenchement d'émeutes violentes en Éthiopie, en Inde, au Pakistan, dans l'élection de Donald Trump bien sûr, comme dans l'attaque contre le Capitole le 6 janvier dernier à Washington, mais aussi plus généralement dans la montée des populismes à travers le monde et en France, dans l'accélération de la décomposition des partis politiques traditionnels en cours depuis la fin de la guerre froide, et dans l'émergence concomitante de personnalités clivantes sur la scène publique. Sous l'influence des technologies, ce que l'on appelait au XXe siècle le militantisme, laisse aussi la place à une nouvelle forme d'engagement politique qui, de droite comme de gauche, s'avère éminemment paradoxale. Un militantisme individuel, plus proche de la performance artistique et qui ne rechigne pas devant le succès social. Comment fonctionne-t-il et quels en sont les risques? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Avec pour en parler, Rokhaya Diallo, bonjour.
Bonjour.
Votre documentaire La Parisienne démystifiée vient de passer sur FR3. Vous êtes, je cite la page d'accueil de votre site, qui vous définit comme, en anglais, journalist, filmmaker, writer, public speaker, TV and radio host, coach and more. Vous êtes aussi, dans un entretien donné aux Inroc en 2017, une féministe intersectionnelle et décoloniale. Pour vous, en tout cas, le féminisme ne peut être dissocié de la lutte contre le racisme, l'islamophobie ou l'homophobie. Vous avez créé en 2006 l'association Les Indivisibles, qui a organisé les Yabon Awards. Et c'est surtout entre 2009 et 2010, avec l'explosion des réseaux sociaux, que commence vraiment votre activité médiatique la plus intense, d'abord à la matinale de Canal, puis sur LCP, et puis très vite aux États-Unis, comme vous le racontez dans « Ne reste pas à ta place », le livre le plus autobiographique que vous ayez publié, je crois, qui s'est sorti en mars dernier aux éditions Marabout et dont on va reparler dans un instant. Éric Sadin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes déjà venu dans cette émission quand vous avez publié « L'ère de l'individu tyran ». Et là, vous publiez cet automne « Faire sécession, une politique de nous-mêmes » aux éditions de L'Échappée. Et enfin, Fabrice Eppelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialiste des médias sociaux et du web social. Vous avez enseigné dans la section master de l'Université de la Sorbonne et vous avez rejoint Sciences Po. Vous enseignez la guerre informationnelle, les usages politiques des réseaux sociaux, la surveillance de masse. Vous avez écrit aussi de nombreux articles sur l'expression citoyenne face aux responsables politiques et vous écrivez régulièrement dans Reflet Info. C'est ça?
C'est cela.
Voilà. Alors, je vais commencer par vous, d'ailleurs, Fabrice Eppelboin. D'abord, pour essayer de mettre au point, d'expliquer en deux mots ce dont on parle, les algorithmes, et en particulier l'algorithme de Facebook, dont on a beaucoup parlé, qui est lancé en 2018, qui était censé assainir les contenus haineux et favoriser les contenus émanant de proches, plutôt que des médias, n'a fait qu'empirer la situation.
Il ne faut qu'empirer la situation. Les récents Facebook Papers montrent que les algorithmes d'intelligence artificielle qui avaient été présentés comme la solution miracle ne peuvent saisir que 2 à 3% du problème et que les ingénieurs les plus optimistes au sein même de Facebook envisagent que ça puisse atteindre 10% mais pas plus. La réalité c'est qu'il faut une modération humaine et que cette modération humaine, qui plus est, doit faire face à des problématiques régionales très très spécifiques. Ce qui est haineux dans un pays ne l'est pas nécessairement dans le pays d'à côté et ça demande la mise en œuvre d'une force de travail humaine qui est totalement incompatible avec le modèle économique même de Facebook. Donc ça n'arrivera pas. Très clairement, nous sommes pieds et mains liés avec ces algorithmes et tant que nos sociétés seront complètement intrinsèquement lié à Facebook et que le lien social sera fait par Facebook de plus en plus, on aura dans nos sociétés, en France comme ailleurs, les effets de cet algorithme qui sont effectivement une forme de division, de polarisation de l'opinion publique, de repli communautaire généralisé, quelles que soient les communautés, et avec les conséquences politiques qu'on connaît.
Alors ça dépasse de loin le problème de Facebook, hein, c'est les réseaux sociaux en général, sur lesquels se sont alignés de plus en plus les grands médias. Le New York Times, par exemple, en 2014, avait publié en interne un document qui s'appelait Innovation, dans lequel il était expliqué que pour retrouver un lectorat, après la crise liée à l'évolution digitale, il fallait miser sur l'émotion, et en particulier sur la colère, plutôt que sur le reportage traditionnel, etc. C'est-à-dire que c'est un document interne qui adoptait exactement les mêmes logiques que Facebook et que les réseaux sociaux en général.
Oui, c'est terrifiant de voir ça au sein du New York Times, qui est quand même censé être la mecque du journalisme. Mais malheureusement, vous imaginez bien que si le New York Times en est là, c'est totalement généralisé dans l'ensemble de la presse. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'audience sans avoir recours à l'émotionnel. Et donc, on bypasse complètement la capacité à faire réfléchir les populations, à faire réfléchir une audience. Qui plus est, on est baigné dans un monde de l'alerte et de la notification permanente qui nous met nous-mêmes dans un état très primitif et reptilien de petites choses traquées en permanence à l'affût d'un signal, et ça non plus, ça n'incite pas vraiment à la réflexion.
C'est que, en gros, depuis 20 ans, Eric Sadin, on assiste au grand retour des passions, et des passions manipulées, et des passions auto-manipulées, en fait. À travers les...
Oui, je pense qu'il faut mettre en perspective cet esprit actuel avec ce qu'on peut nommer une rapide et massive évolution des mentalités qui est à l'œuvre, à mon sens, depuis une quinzaine d'années et qui a pris la forme d'une prise de conscience relativement à des injustices, des iniquités, des manquements de toutes sortes dans la société qui allait de soi. C'est ça qui me semble important, qui était comme banalisé et institutionnalisé. Et d'où vient cela? Je pense qu'il ne faut pas trop focaliser, même si c'est une dimension majeure, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une origine qu'on peut identifier en quelques mots. C'est, il ne faut pas ignorer la part des universités américaines et ce qui a été nommé, ce qui est nommé Cultural Studies, dans la volonté de traquer tous les rapports de pouvoir plus ou moins dissimulés et qui vont comme allant de soi dans la droite lignée de la French Theory de Foucault sur le pouvoir dans les relations de pouvoir, ce qu'il appelait les lieux de pouvoir. Évidemment, l'avènement des réseaux sociaux vers le milieu, si je dis une quinzaine d'années, qui sont apparus au milieu des années 2000 et qui sont surtout, qui ont pris leur pleine mesure à la fin des années 2000, qui ont induit un privilège accordé à la parole, à l'expression de soi, et notamment sur Twitter avec des formules qui courtes, qui privilégiaient l'assertion définitive, mais qui aussi cultivaient des affinités entre des groupements se sentant lésés. Et évidemment, ce qu'on a nommé l'âge de l'accès. C'est-à-dire l'âge de l'accès a modifié l'abdomen. C'est pas que les réseaux sociaux. L'âge de l'accès, c'est d'avoir accès à quantité d'informations de toutes sortes. Et évidemment, il n'y a pas que Twitter, ni Facebook, il y a YouTube. Le fait que ça a laissé libre cours à toutes les volontés d'expressivité, de manifester les impressions d'injustice, de manquement. Et ce qui me semble aujourd'hui, depuis 2, 3, 4 ans, c'est que cette puissante et très massive impression d'injustice, d'iniquité est à mettre en rapport avec un sentiment de stagnation. C'est ça qui me semble très important, c'est-à-dire un sentiment de stagnation qui ne fait qu'amplifier l'état de crispation. C'est-à-dire, on est de plus en plus conscient de choses qui ne vont pas, et puis on a l'impression que ça n'avance pas. Et il me semble qu'on arrive aujourd'hui, là précisément aujourd'hui, je vais pas être trop long, mais ça me semble très important pour comprendre la nature des formes d'activisme aujourd'hui, on arrive à un constat qui est très partagé, il me semble, qu'un certain ordre politique, économique, culturel des choses, en gros, la société dite blanche, dite judéo-chrétienne, dite patriarcale, capitaliste, colonialiste au passé, mais aussi développant supposément des formes de colonialisme au présent, aurait eu faux surtout. C'est-à-dire on aurait eu tort sur toute la ligne. C'est-à-dire, cette société-là, on aurait eu tort sur toute la ligne. C'est-à-dire, à force de crispation, on en arrive au constat qu'il y a eu tellement de manquements. Et donc, ces manquements, ils procèdent surtout d'une perception des choses, c'est qu'il y a eu des emprises. Et juste en quelques mots, parce que ça me semble très très important.
On va y revenir peut-être après.
Juste, emprise, c'est de l'humain. sur l'environnement, l'emprise, des hommes sur les femmes, des riches sur les pauvres et des blancs sur les minorités, particulièrement les populations noires et musulmanes. Donc ça favorisait la logique, la rhétorique de la domination. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à un tel état de crispation que le prisme d'intelligibilité majeur des crispations des états sociaux, c'est des dominations des uns sur les autres. Avec le fait, juste pour finir, que à force d'avoir de se sentir dominé, la vérité, elle se trouve du côté des dominés. Donc il y a des formes de... Et ceux qui ont fauté ont tort définitivement. Donc ça crée aussi des phénomènes de surdité sociale et de crispation indéfiniment croissante.
On va revenir sur tout ça. Rokhaya Diallo, dans votre livre Ne reste pas à ta place, vous êtes plus ambivalente que sur les réseaux sociaux. Vous écrivez « J'apprécie l'époque dans laquelle nous vivons car les réseaux sociaux ont démocratisé une partie de l'espace public en le restreignant plus uniquement à la parole autorisée d'un petit groupe de sachantes et de sachants qui se sont octroyés cette légitimité.
Je pense pas être plus ambivalente là que sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, sur Twitter, en 280 signes, je peux pas dire autant de choses. Mais
c'est dans votre livre,
Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je le dis comme ça dans mon livre, parce que je peux pas forcément le dire comme ça sur Twitter. Mais je pense que j'ai pu le dire dans mes différentes interventions à la télévision ou à la radio. C'est un aspect de l'époque que j'apprécie, en ne faisant pas évidemment l'impasse sur ce qui a été dit, notamment sur le régime de surveillance dans lequel nous vivons. Mais ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que l'espace public a été transformé durant la dernière décennie, et il a été transformé effectivement en permettant à des personnes qui auraient dû autrefois passer sous le filtre de certaines personnes en position de domination, pour reprendre quelque chose que vous avez dit, qui finalement décidaient de qui avait ou non une parole suffisamment légitime pour pénétrer l'espace public, et qui aujourd'hui, en fait... n'ont pas d'autre choix que de considérer des voix qui autrefois étaient en retrait. Je peux penser au mouvement MeToo, par exemple, le mouvement MeToo qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux à travers un hashtag qui a permis à des femmes, d'abord aux États-Unis puis à travers le monde, de faire écho à des violences systémiques patriarcales auxquelles elles étaient exposées. Et on peut voir que ça a eu des conséquences au-delà de l'espace public, puisque ça a permis, en tout cas au nombre de plaintes de femmes en France pour violences sexuelles, d'augmenter. C'est-à-dire que tout d'un coup, une expression sur un réseau social a donné une légitimité à des femmes qui auraient pu se sentir isolées. C'est ce que je trouve intéressant et c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est que il y a des vécus qui étaient entrepris comme étant des vécus isolés dont on a compris le caractère systémique parce qu'on a pu les mettre en résonance avec d'autres vécus. Je pense notamment au renouvellement, par exemple en France, de l'afroféminisme qui avait existé dans les années 70 mais qui n'avait plus vraiment de visibilité publique, qui s'est recomposé sur notamment les réseaux sociaux suite à la rencontre de plusieurs femmes noires. Mais on peut parler aussi de l'asioféminisme qu'on peut voir par exemple avec Sororasi sur Instagram. Ce sont des femmes noires ou des femmes d'origine asiatique qui se sont rendues compte que ce qu'elles appréciaient parfois comme des vécus individuels en fait étaient liés à des... des logiques d'oppression patriarcale, d'oppression raciale, qui en fait n'étaient pas seulement le fait de leur environnement individuel.
Mais c'est aussi ce que vient de dire Éric Sadin, c'est-à-dire que la technologie va avec ce type de discours. Et puis, est-ce que c'est pas aussi ce qui permet plus de brutalité dans l'expression des choses, c'est-à-dire ces soudaines dénonciations d'injustice sont exprimées très rapidement, sans nécessairement les arguments qu'il faudrait, et c'est la pulsion qui est privilégiée plus que le raisonnement, et c'est la brutalité qui est privilégiée, non ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui est brutal ? Est-ce qu'il est brutal de vivre une injustice ou est-ce qu'il est brutal de la décrire ?
Je vais vous donner un exemple. Quand Assa Traoré pose en Louboutin et que Coco la caricature dans Libération avec un dessin de Martin Luther King disant « Imaginez ce qui se serait passé si Martin Luther King avait prononcé ses discours en Louboutin », vous envoyez un texto disant « Martin Luther King, et sinon Martin Luther King portait une Rolex, sa famille avait accepté de le faire figurer sur une campagne de la marque en 2013, Mohamed Ali a été égérie de Louis Vuitton, vous allez laisser Assa Traoré tranquille maintenant ?» Point d'interrogation.
Je vais juste reprendre ce qui s'est passé. Alors Assa Traoré, c'est une femme.
Je vais pas rentrer dans l'histoire d'Assa Traoré, mais c'est juste pour votre tweet. Vous savez que la Rolex a été donnée à Martin Luther King au moment du prix Nobel. Vous savez que Mohamed Ali en fait soutenait Ronald Reagan à la fin de sa vie. Tel qu'il est, le tweet donne à penser qu'il y a un camp bien identifié, où Assa Traoré, Mohamed Ali et Martin Luther King sont dans un camp, et puis un autre camp qui est le camp de ceux qui se moquent d'Assa Traoré injustement. Mais les choses sont plus complexes, sauf qu'on ne peut pas l'expliquer, parce que c'est un tweet qui fait autorité.
Ah, pas du tout, il ne fait pas autorité, il est succinct. Il est ferme, mais il ne fait pas autorité. Il fait autorité pour moi, parce que c'est mon opinion, mais il ne fait pas autorité de manière définitive pour tout le monde. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous donnez l'impression que j'ai constitué des camps, alors que c'est la dessinatrice qui a placé Martin Luther King dans un camp supposé, celui d'Assa Traoré, en décidant de présenter Martin Luther King comme une figure qui faisait autorité, et donc qui ne serait pas fourvoyée en posant avec une marque de chaussures, alors que moi, ce que je disais simplement, c'est que sa famille avait autorisé l'usage de son image pour la commercialisation de Rolex. Donc il n'y avait pas complètement d'un côté un Martin Luther King qui serait complètement extérieur aux logiques capitalistes et une Assa Traoré qui s'est vue offrir des Louboutins avec lesquels elle a posé. Mais quand vous me parlez de brutalité, la première des brutalités, c'est la mort d'Adama Traoré.
C'est quand même important.
Non mais c'est le point de départ.
C'est la communication qui m'intéresse là.
Oui mais c'est-à-dire la communication, elle est venue servir. Est venue servir un propos, c'est-à-dire qu'Assa Traoré, c'est une militante qui cherche la justice, la vérité par rapport à la mort de son frère. Donc je pense que c'est important de dire que la communication sert aussi un propos militant.
Je pense que c'est important de rappeler qu'elle défend un enjeu très important. Puisque nous parlons d'activisme qui remplacerait des formes de militantisme historique, hein, c'est ça l'enjeu de l'émission. Hein. La question des modalités, de l'effet des modes d'action est capitale. Elle est capitale. C'est-à-dire que, nous l'avons dit, les psychés sont chauffés à blanc. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, une puissante impression d'injustice, d'iniquité. Je le redis, de manquement. C'est-à-dire, des choses devraient avoir lieu, ça n'a pas lieu. Et c'est à mettre, je le redis, en rapport avec une puissante impression de stagnation. Donc, il y a derrière cela aussi une industrie très très habile. Parce que je parle pas de réseaux sociaux, je parle de l'industrie de l'expressivité. C'est-à-dire que nous pouvons dire d'une certaine façon que nous passons de la société de l'information, même si elle demeure, à l'âge de l'inflation opiniologique, on peut dire. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout le monde donne son opinion en croyant que ça fait office d'action politique. C'est-à-dire que nous vivons un moment où il y a une primauté accordée au verbe et pas n'importe quel verbe, c'est-à-dire le verbe assertif, c'est-à-dire qui affirme avec des modalités de contradiction qui sont très très peu autorisées, notamment via ces plateformes. Donc ces dits réseaux sociaux, comment ne pas voir leur dimension cathartique ? C'est-à-dire à la fois on se tromperait de croire qu'il y a de l'information sur Twitter, il y en a par des partages de liens, mais par les affirmations, c'est pas tant des affirmations que la confirmation de sa propre opinion et qui appelle ou des jeux d'opposition ou des jeux de confirmation par des affinités. Non, il y a, nous vivons et l'industrie a très bien nous a donné des clés, des instruments qui permettent de libérer la parole et de se croire davantage partie prenante des affaires du monde par la parole. C'est-à-dire qu'on est dans une illusion de l'intervention. Vous dites,
nous vivons une époque où comme jamais les discours précède les faits.
C'est-à-dire que nous vivons une société du verbe, et puisque vous, Rocaille, puisque vous parliez de Martin Luther King, il disait que l'action directe, les actions, n'ont de valeur que si ensuite il y a des accords qui sont négociés avec la partie qui ignore les exigences ou les revendications. Or là, nous sommes dans une société où qu'est-ce qui prédomine finalement ? C'est le cri. Il y a du cri. Pourquoi il y a du cri ? Parce qu'il y a de l'affect, parce qu'il y a le sentiment d'injustice. Et puis aussi, c'est très, 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 très marquant, puisque vous parliez de Assa Traoré, de Louboutin, mais il y a d'autres 850 millions d'euros. Je ne sais pas si l'entreprise est au CAC 40, peu importe. Mais qu'il y a l'idée de washing de tout, hein, greenwashing et bonne cause washing, on peut dire. Donc ça dit l'état de confusion, et on peut dire aussi qu'il y a, excusez-moi l'expression, mais il y a une sorte de d'instagrammatisation des causes, des luttes. C'est très important parce que qu'est-ce que ça suppose ça ? Ça suppose que beaucoup de causes présentées comme supposément impératives et justes aujourd'hui procèdent par démarche individuelle. Or, les enjeux, c'est la mobilisation collective.
C'est un des sujets sur lesquels on va revenir une seconde. Je voudrais d'abord, Fabrice Eppelboin, vous avez travaillé avec les activistes tunisiens en 2011, au début des années 2000. Qu'est-ce qui a changé entre cette époque et aujourd'hui pour vous ?
Facebook a énormément changé. À l'époque, en 2010, Facebook n'était absolument pas conscient d'avoir un impact politique sur le monde. Ils venaient de racheter la société qui ont donné naissance à ce fameux flux qui a généré toute cette polarisation. Donc c'était tout nouveau pour eux. Facebook était une toute petite société par rapport au géant que c'est devenu. Et je me souviens avoir alerté en avance de phase, bien avant la révolution tunisienne, Facebook, que typiquement Ben Ali, qui avait une armée numérique, se servait de Facebook pour lutter contre son opposition. Ils étaient totalement incapable de saisir le fait que certaines personnes, notamment dans le monde arabe, étaient déjà à l'époque en train de se saisir de leur outil pour en faire un outil politique. Ça les dépassait complètement. Ils ont vite appris, très vite appris. Ils ont appris avec le printemps arabe, ils ont réalisé qu'ils avaient un impact sociétal très fort, que potentiellement, politiquement, c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Ils se sont staffés avec énormément de personnel politique. Si vous regardez les employés de Facebook, notamment en Europe, ceux qui ne travaillent pas la technologie, vous allez trouver énormément de gens qui sortent de la haute fonction publique et qui ont travaillé à des postes politiques, comme le président de Facebook France, par exemple, qui est un ancien du cabinet de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, Facebook, en Europe, est essentiellement une interface politique avec les autres instances de gouvernement des sociétés européennes. Mais Facebook n'a plus rien à voir avec ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, ça serait très compliqué de refaire ce qui a été fait en 2010 et de déclencher le printemps arabe à travers un outil comme Facebook. Je pense que Facebook serait les premiers à mettre le pied sur le frein et ils ont tout à fait les moyens, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque.
On parlait de l'individualisme des nouveaux activistes et c'est un des sujets que je voulais traiter, et en particulier à travers votre livre au Kaya Diallo où il y a des choses très intéressantes. Vous dites notamment que vous avez refusé en 2012 la proposition d'un parti de gauche de vous lancer en politique. Vous avez préféré l'action individuelle et vous écrivez: je suis la seule à décider de ma légitimité et je l'énonce chaque jour comme un acquis, tant pis si ça dérange. J'ai souvent été sollicité, mais j'ai aussi été force de proposition quand des envies profondes m'animaient. Notre force provient du fait qu'on ne s'interdise rien. Et ça me fait partie des phrases qui me semblent qu'il aurait été impossible pour un militant classique de dire il y a 20 ou 30 ans.
Je le dis plus en tant que créatrice qu'en tant que militante.
Vous le dites aussi en tant que militante dans le livre.
Je le dis vraiment, quand je dis ça, je m'interdis rien, c'est plutôt parce que j'ai créé. En fait, moi j'ai choisi...
Vous dites, pardon, je vous cite, être clivant est le prix à payer quand on s'attaque à une injustice profonde. Mes idées sont importantes, elles sont brillantes, et si elles dérangent, ce n'est pas mon problème. Je refuse de privilégier le confort de mes interlocuteurs au détriment du mien, etc. etc.
Oui, mais ça c'est... on peut le dire, je pense que les personnes qui créent en appréhendant des questions qui clivent peuvent dire exactement la même chose. Moi, je le dis parce que j'ai choisi de m'exprimer justement en produisant des documentaires, en produisant des livres, et pas en m'engageant nécessairement dans une organisation. Tout à l'heure, je parlais. Donc moi, effectivement, j'ai choisi de mettre en retrait. J'ai créé une association Les Indivisibles qui était sur un sujet. Moi, j'ai choisi de m'autoriser à m'exprimer sur différents sujets. Donc on a parlé jusqu'ici d'antiracisme. Je m'exprime également sur le féminisme, sur d'autres questions assez multiples. C'est pour cela que dans un collectif, en fait, je ne voulais pas engager la parole de mon collectif sur tous les sujets sur lesquels je souhaitais m'exprimer. Mais ça vaut pour moi en tant que personne, parce que je ne me considère justement pas comme une militante, contrairement à par exemple quelqu'un comme Assa Traoré, qui à la fois est mobilisé sur les réseaux sociaux, mais peut mettre des dizaines de milliers de personnes dans la rue devant le tribunal de Paris en juin 2020, notamment de nombreux primo-manifestants, et donc montre qu'avec la force effectivement de sa présence sur Instagram, et effectivement on peut discuter la personnalisation du mouvement, mais cette personnalisation, le fait qu'elle soit une sœur en deuil, qu'elle ait perdu son frère, qu'elle puisse parler d'Adama Traoré comme d'un individu et donner un visage aussi aux victimes de violences policières, eh bien, effectivement, ça mobilise différemment. Mais moi, je trouve que, par exemple, si on prend le mouvement Black Lives Matter, contrairement à justement le mouvement des droits civiques, qui portait sur des personnes, notamment des hommes hétérosexuels, religieux, je pense à Martin Luther King, je pense aussi à Malcolm X. Le mouvement Black Lives Matter a été fondé par trois femmes, dont deux femmes queer. Et justement, c'est un mouvement qui est extrêmement horizontal, qui n'a pas de figure de référence aux États-Unis. On n'est pas dans la personnalisation de ce mouvement-là. Au contraire, on est dans une haute horizontalité. Et les fondatrices ont dit qu'on pouvait fonder un chapitre où qu'on soit aux États-Unis ou dans le monde.
C'est ce paradoxe-là qui est intéressant.
Oui, c'est là où Assa Traoré est très intéressante, d'un point de vue strictement militantisme. On a deux mouvements qui sont nés aux États-Unis à travers des hashtags. Hein, le MeToo qui, en France, s'est traduit localement dans la culture française par Balance ton porc, ce qui est pas la même chose que MeToo, et ce qui est plus adapté à la situation française et qui a résonné en France, alors que le MeToo n'avait pas cette capacité à résonner en France. Et puis on a Black Lives Matter, qui, là pour le coup, a échoué à se traduire dans une réalité dans la société française. Alors, ce serait très difficile d'accuser à sa travail, mais toujours est-il que cette transformation et cette adaptation à une problématique française, pour le coup, n'a pas marché aussi bien que MeToo vers Balance ton porc. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Il y a aussi une confrontation par rapport à ce qu'on appelle vulgairement la fachosphère, qui n'a pas eu lieu avec MeToo. Il n'y a pas eu de grand mouvement contre MeToo, et c'est tant mieux. Alors qu'il y a eu un grand mouvement contre l'importation du mouvement Black Lives Matter. Il y a eu des luttes très intéressantes à analyser d'un point de vue militantisme entre des mouvements qui venaient du bloc identitaire et d'une façon générale de la fachosphère, qui est quelque chose qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, qui est extrêmement complexe, cette tentative d'importation de Black Lives Matter, où là, ça n'a pas pris. Il y a effectivement cette problématique de la personnalisation à travers une personnalité très charismatique, mais forcément nécessairement très clivante, qui aussi n'a pas fonctionné. Donc il y a une importation de grands mouvements qui viennent tous des États-Unis hein, pour l'instant, qui se traduisent dans une culture locale, parce que même si les réseaux sociaux nous ont donné une mondialisation de la société, il y a malgré tout un besoin encore d'adaptation à des cultures locales. Et de temps en temps, ça passe. De temps en temps, ça ne marche pas. Le mouvement Black Lives Matter, à ce titre, est très intéressant.
Ces mouvements, moi, il me semble, j'ai le sentiment que ces mouvements véhiculent moins une idéologie qu'une grammaire,
une émotion
qui se décline comme une grammaire. On la voit à l'œuvre partout. C'est quand American Express, par exemple, organise des programmes spéciaux pour enseigner que le capitalisme est intrinsèquement raciste. Quand Robin DiAngelo, l'autrice, comme on dit aujourd'hui, de White Fragility, est invitée dans toutes les universités, alors qu'elle est conseillère en entreprise. C'est pas une philosophe, c'est pas une sociologue, c'est une conseillère en entreprise. Donc il y a cette perméabilité de l'entreprise à ce type de discours qui est véhiculé essentiellement par des médias électroniques et avec une grammaire particulière. C'est pas tellement l'idéologie qui m'intéresse en l'occurrence, c'est plutôt ce type de diffusion. Éric Sadin ?
Ça dit à quel point c'est éparse. C'est-à-dire il n'y a pas de stratégie ici. S'il y a des difficultés, s'il y a des volontés de s'engager dans des luttes, la question des stratégies à mettre en œuvre, une fois de plus, elle est décisive. Or, ce qu'il se passe, à mon sens, c'est que si on parle d'individualisation, de prise en charge, de questions décisives, ça dit aussi le fait que il y a une héroïsation des personnes qui parlent plus fortes que certains autres.
Et qu'on
en est aussi, ça me semble très très important, on est aussi dans une logique de la bataille des idées. C'est-à-dire que on croit, pour de nombreuses causes, notamment pour la cause écologique, ce qui me pose de nombreux problèmes, c'est-à-dire qu'on croit que c'est en faisant des posts à vocation écologique et des vidéos qui ne cessent de consommer, de produire de l'impact carbone, en faisant des vidéos sur YouTube continues, en dénonçant je ne sais quelle pratique. La bataille des idées sur de nombreux enjeux, il me semble qu'elle est gagnée, elle est largement gagnée.
Oui, mais elle est gagnée d'une manière étrange, parce qu'elle est gagnée par une sorte de... C'est le langage qui me semble intéressant. Une des choses qui m'a vraiment fasciné dans votre livre...
Vous l'avez bien aimé. Mais c'est rare qu'on fasse une lecture attentive de mon travail, ça me fait plaisir.
Mais c'est la manière dont il est écrit. Mm-hmm. Parce que ça, c'est vraiment neuf. C'est une forme de militantisme qui n'existait pas. On n'imagine pas Angela Davis écrire comme ça. Je cite les titres de chapitre 1.
C'est un livre de développement personnel.
Et voilà, c'est ça, exactement.
C'est une collection de développement personnel.
Et c'est quand même étonnant ce mélange de développement personnel et d'idéologie révolutionnaire ou je sais pas comment l'appeler, c'est pas exactement une idéologie, mais de positionnement.
De soi, c'est pas une intéressante sur le plan de l'émancipation.
Alors l'aventure d'être soi, être fidèle à soi-même, s'accomplir dans son activité.
L'aventure d'être soi, c'est Simone de Beauvoir.
Je l'ai
cité. Non mais pardonnez-moi. Là,
trouver sa voie, suivre ses passions, vivre ses passions, porter ses convictions. Et je cite au hasard des phrases. Hein. Si l'on est convaincu de sa valeur, on n'autorise personne à en douter. Il faut savoir revendiquer son mérite et ses réussites. La vie est une succession d'épreuves. Ne pas se conformer à ce que l'on attend de nous, etc. Mes trois préférés dans le contexte. d'un combat contre le capitalisme quand même. Hein. C'est à propos de Disney, entreprise où vous avez travaillé, je n'oublierai jamais ce jour magique où Disney Télévision France, la société de mes rêves, m'a contacté pour un entretien. Plus tard, un de nos responsables est venu de Californie pour célébrer la fin du trimestre. Rien dans son allure banale ne pouvait laisser deviner un charisme particulier. Pourtant, quand il a pris la parole, tout était là. Éloquence, humour et pouvoir de conviction. Cet homme avait sans aucun doute baigné dans un environnement propice au développement de telles compétences. J'ai réalisé le gouffre culturel qui nous séparait des États-Unis. C'est aux États-Unis que j'ai appris à prendre conscience de ma valeur. Dans ce pays où les six communs encourageaient les porteurs de projets, j'ai réalisé à quel point ma trajectoire était exceptionnelle. Au pays de l'oncle Sam, on ne perd pas le nord dès lors qu'il s'agit de business, etc., etc. On imagine Angela Davis écrire ça et on se dit, mais on a changé de monde là. On a quand même quelqu'un dont la profession de foi est l'anticapitalisme et qui explique que le patriarcat est le produit du capitalisme et que le patriarcat a pour conséquence l'esclavage et la domination. Et on a ça.
Alors, je voulais revenir sur quelque chose qui avait été dit auparavant, j'ai pas pu réagir dessus, mais par rapport à la transposition de MeToo et de Black Lives Matter en France, je pense que MeToo a une résonance particulièrement importante parce que déjà, les femmes composent une partie majoritaire de la population, oui. Donc nécessairement, le nombre de personnes qui se sont identifiées aux personnes qui ont témoigné de violences sexuelles était très conséquent, et que notre MeToo s'est aussi déroulé en dehors des réseaux sociaux avec les témoignages comme ceux de Vanessa Springora, comme Adèle Haenel, oui. Comme Sarah Abitbol, etc. Donc il y a eu vraiment une résonance très très locale du mouvement MeToo, là où Black Lives Matter, je pense que la formulation même de Black Lives Matter ne correspond pas à ce que nous sommes en tant que Français. Les personnes qui sont victimes de violences policières, qui sont le plus victimes de violences policières en France, sont des personnes d'origine nord-africaine, donc d'origine maghrébine et qui ne sont pas noires. Donc le fait de, effectivement, vouloir transposer une réalité américaine sur un contexte français qui est différent,
ah oui, ça marche pas.
Bah, nécessairement ça ne fonctionne pas. Donc ça a pu fonctionner autour d'Adama Traoré parce que Adama Traoré est noir, mais c'est vrai que Amal Bentounsi,
en tout cas en termes de mobilisation, une longue discussion.
Mais en tout cas, en termes de mobilisation et de présence,
pour répondre à ce que
vous disiez, alors Disney, c'était un de mes premiers. Effectivement, je suis une enfant de la génération Disney. Je veux dire, comme beaucoup de personnes.
Sur cet éloge du capitalisme, en fait.
Non, alors je pense que vous m'avez mal comprise. Moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, les Américains sont pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être extrêmement capitalistes, mais leur capitalisme, en fait, leur fait, d'une certaine manière, valoriser des profils indépendamment du fait qu'ils puissent être racistes de manière simultanée. En fait, c'est ce que je disais simplement. Et par rapport à Disney, moi, ce que je disais par rapport à notre responsable qui était venu de Burbank, c'est que la société américaine est une société qui valorise la prise de parole dès la scolarité. On est d'accord. Je veux dire, on peut être un très bon élève. Par exemple, on peut être un très bon élève. Ça a été mon cas sans jamais prendre la parole devant un professeur et donc ne pas développer des compétences verbales. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où en fait les étudiants, moi quand j'enseigne face à des étudiants américains, ils m'interpellent, ils me posent des questions, alors qu'en France, on est dans une façon très ascendante de transmettre le savoir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai effectivement apprécié. Et moi, c'est vrai que j'étais une personne extrêmement timide qui prenait très peu la parole. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a cette manière de valoriser les enfants des classes populaires lorsqu'ils transcendent les classes sociales. Parce qu'en France, moi, c'est vrai qu'en France, personne ne me dit jamais que finalement, c'est très rare de voir une fille d'ouvrier immigré être au micro de France Culture, voilà. Alors qu'elle ne disposait pas du capital culturel de départ. Ça vous agace un petit peu ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais bien pouvoir, parce que j'ai d'autres exprimé très longuement sans être interrompu. Donc moi, je veux juste dire que il a fallu que j'aille aux États-Unis pour qu'on me dise « Tu es une fille d'immigrée, une fille d'ouvrier, tu peux t'exprimer publiquement, bravo !» Et ça, je ne l'ai jamais entendu en France.
Non, mais ça, on est au cœur du problème, là. Donc, voilà. Je vois soupirer Eric Sadin.
Ce dont nous parlons depuis le début, c'est un mouvement d'extrême politisation des consciences depuis un certain nombre d'années. Et politisation avec des exigences.
Mais de politisation ou de dépolitisation?
De politisation. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui a un positionnement politique. Mais la question à la question personnelle de Rokhaya Diallo, avec des modalités spécifiques. Mais je reviens tout de même à la question majeure, qui me semble, celle des modalités que nous mettons en marche, que nous mettons en œuvre, en commun, hors de toute héroïsation de sa propre parole. Et quand je parlais de bataille des idées aujourd'hui, si on veut relever une sorte de déviation qui est à l'œuvre actuellement, c'est qu'on s'en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup aux symboles. Je pense par exemple à, puisqu'on parle de nouvelles formes d'activisme, cher Mark Weitzman, ou de nouvelles formes d'activisme, je pense à Extinction Rebellion par exemple. Là, il y a des nouvelles formes d'activisme que moi je mets fortement en critique, parce que leur projet, c'est de faire des opérations commando, d'action directe, d'occuper momentanément un centre commercial afin d'empêcher la clientèle d'entrer, ou alors d'occuper des pistes d'aéroport afin d'empêcher les décollages ou l'atterrissage d'avion, tout cela au nom supposément au nom de mettre en échec des pratiques commerciales, la société de consommation, le trafic aérien. Mais quelle est l'efficacité de ces pratiques? Elle est nulle. Sinon que dans les dîners en ville, on trouve ça très audacieux parce que soi-même on n'est pas capable de s'engager dans ce type d'action. Ou alors on fait des posts sur Twitter qui à nouveau induisent de l'impact énergétique et on trouve ça formidable. Et je pense par exemple en termes de symbole. Vous vous souvenez, après le meurtre de George Floyd, les statues qui ont été déboulonnées. C'est-à-dire que les affects aujourd'hui sont chauffés à bleu.
C'est pas de l'affect.
C'est le sentiment d'injustice.
C'est l'injustice, c'est pas un sentiment seulement.
Oui, enfin, on va pas jouer sur les mots.
Quand les manifestants finissent par déboulonner la statue de Cervantes et de Don Quichotte, parce qu'ils pensent que c'est un colonisateur, c'est vraiment de l'affect.
Donc la question des modalités, elle est capitale.
Alors, Fabrice Pellebois.
Je voulais revenir sur le développement personnel et le militantisme. Oui. Moi, mon expérience d'enseignant, on peut dire que c'est absolument dans l'air du temps.
Oui, c'est ça, c'est ce qui me semble aussi.
C'est au contraire, je pense que le militantisme aujourd'hui est une façon pour des gens qui, la plupart du temps, sortent de l'adolescence, de prolonger la mise au point de leur personnalité à travers des luttes, et ils ont une panoplie qui est infiniment plus large que ce que j'avais à mon époque. Moi, j'ai 50 ans passé. À mon époque, effectivement, on était obligé de rentrer dans les fourches codines d'un parti politique, d'adopter un programme et de militer pour un programme. Aujourd'hui, on peut faire du cherry picking et aller adopter des causes réelles pour lesquelles on croit.
Et c'est une manière d'intégration sociale.
C'est non seulement une façon, une socialité, c'est une façon de développer sa réflexion, c'est une façon de développer sa personnalité, c'est une façon de grandir, et c'est complètement dans l'air du temps d'avoir cette espèce d'hybridation entre développement personnel et militantisme.
Et éventuellement succès social et carrière.
Et éventuellement avec des... C'était déjà le cas avec le militantisme classique des années 70-80. Le succès venait à travers un parti politique, des postes...
Mais là, c'est plus affirmé.
C'est plus honnête.
Vous parlez dans le livre, vous parlez très souvent de votre carrière.
Les think tanks des partis politiques qui menaient à une carrière politique, c'est beaucoup plus honnête.
Alors, le propos de mon livre, c'est d'être encourageant. Je veux dire aussi qu'avant de commencer à militer, j'étais déjà cadre supérieur dans une grande entreprise américaine, avant d'avoir un profil public. Donc, le militantisme ne m'a pas fait changer de statut social, si ce n'est par ma visibilité, mais en tout cas matériellement.
Mais alors, vous êtes une militante ou pas? Parce que c'est pas clair dans le livre. Vous dites que vous l'êtes quelquefois.
J'ai une transition, en fait, par le militantisme. Mais aujourd'hui, mon travail, c'est d'être réalisatrice, d'être journaliste et d'être autrice. D'accord. Alors, effectivement, j'ai milité à ATAC, j'ai milité à Mixité. J'ai créé une association qui s'appelle Les Indivisibles en 2006, comme vous nous l'avez dit. Mais nous sommes aujourd'hui en 2021, donc des années se sont écoulées depuis. Aujourd'hui, je ne milite plus nulle part, mais le militantisme n'a jamais été mon occupation principale. J'ai eu un premier métier, effectivement, où j'étais donc, comme je vous l'ai dit, cadre supérieur. Alors, pour en revenir à ça... Le propos de, enfin, parce que c'est vrai que quand la lecture que vous faites de mon livre dépolitise un peu mon propos, parce que mon livre quand même, moi j'analyse mon parcours comme étant symptomatique de l'expression de logique de domination en France, c'est-à-dire que le fait d'être une femme noire, une femme non blanche dans l'espace public français, nécessairement occasionne l'expression d'un certain nombre de violences symboliques, de violences politiques. Pardon. Je pense que c'est important ce que je suis en train de dire.
Qui sont liées
à mon parcours et à ma spécificité.
Je sais bien ça.
Et ce que je veux dire, c'est que par exemple, on parle du militantisme sur Internet, on n'a pas encore parlé des cyberviolences. Je pense que c'est important d'en parler. Il y a une étude d'Amnesty International qui dit les femmes sont plus exposées aux violences sur Twitter, notamment c'était une étude qui portait sur les femmes journalistes et les femmes politiques, et que parmi les femmes non blanches vivaient 34 fois plus de violences que les femmes blanches, et que les femmes noires vivaient 84 fois plus de violences que les autres femmes. Et donc, je pense que parler de mon parcours très singulier en France, je suis désolée et malheureux, et c'est très malheureux, mais des femmes noires de parents africains, filles d'ouvriers qui s'expriment publiquement en France contre le racisme et contre le sexisme sont très très peu nombreuses. Et ces caractéristiques-là que j'explique dans mon livre, que j'expose, me permettent de montrer quelles logiques sont à l'expression, sont à l'œuvre lorsqu'une personne telle que moi prend la parole.
Il me semble que votre livre s'inscrit dans une grammaire plus générale où on en trouve d'autres. C'est la question du transfuge de classe, mm-hmm. qui est vraiment la manière dont en fait on critique la société pour en fait mieux s'y intégrer. Édouard Louis dit exactement la même chose quand il dit que il voudrait que tout le monde braque des banques. Comme il l'a fait pour réussir dans la vie, c'est une logique strictement néolibérale.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que l'introduction de mon livre dit justement que mon cas ne peut pas être faire exemple, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est profondément injuste et que mon cas ne vaut que pour moi, voilà. Et que mon cas ne peut pas être utilisé, voilà. Pour dire justement avec cette logique libérale qui est quand on veut on peut. Ce sont des circonstances familiales, des circonstances psychologiques, des circonstances de santé mentale, des circonstances de chance et de rencontres qui m'ont permis d'être là où je suis, mais pour autant, mon cas ne peut pas valoir et expliquer que la simple volonté suffise à se départir des pesanteurs sociales qui sont bien plus larges. Et c'est cette figure d'exception qui me permet d'être aujourd'hui devant vous pour vous dire que pour d'autres personnes qui me ressemblent, ça ne va pas.
Fabrice, j'appelle moins très vite et puis ensuite avec Sonia.
Alors très vite, pour ce qui est de cette étude d'Amnesty International, oui, ça paraît effectivement évident si on réfléchit 5 minutes qu'une femme qui cumule le fait d'être issue d'une classe sociale inférieure, noire et femme,
musulmane va se
taper 4 fois plus de violence parce que il y a 4 fronts, c'est sûr. Par rapport à une femme blanche, chrétienne et issue de la bourgeoisie, c'est absolument évident et effectivement, il faut le prendre en compte, c'est clair et net. Et effectivement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à partir du moment où vous allez vous exposer, vous allez faire face à des violences, même un homme blanc bourgeois, ce qui est mon cas, va
c'est
faire
général,
face à des violences.
C'est la violence.
Maintenant, c'est clair que si j'étais une femme noire, musulmane et issue d'une classe ouvrière, j'en aurais certainement beaucoup plus que ce que j'en ai déjà.
Éric Sadin,
vous parliez des réseaux sociaux, des dénonciations. Je pense que l'heure, on voit bien qu'il y a une vanité, on l'a dit, de cela. L'heure est, à mon sens, à la mise en place de chantiers. Rokaya, vous parliez d'injustice. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'heure n'est plus à la parole. On a compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages. Il n'y en a pas suffisamment. On manque toujours de témoignages. Mais je pense que, vous voyez, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse il y a 2 semaines sur la France 2030. Ça mange pas de pain de toujours être dans l'idéologie du futur et faire des grandes promesses et des grands programmes. Je pense que l'enjeu, c'est la France 2021. C'est-à-dire, dans quelle société sommes-nous? Parce que comment ne pas entendre toutes ces exigences, toutes ces revendications à la mesure de quantité d'autres fléaux de l'époque? Et que l'enjeu, c'est de mettre en place des chantiers dans l'école, dans la police, dans la justice, dans les banlieues en déshérence, dans les territoires en déshérence, et d'écouter cela et de nous donner les moyens collectivement d'œuvrer afin de réparer et de nous dégager des modalités d'action qui dégagent des nouveaux horizons d'espérance. Il me semble que c'est ça l'enjeu, de donner un ancrage concret maintenant à nos aspirations.
Et d'écouter les voix discordantes.
Merci à tous les trois d'avoir été là. C'était Signe du Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la technique Florent Bujon.